Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les états généraux du portefeuille de l'État se tiennent depuis ce lundi à Kinshasa. Ils sont ouverts par le chef de l'État. C'est pour redéfinir notamment le rôle des entreprises publiques dans la transformation économique et sociale du pays, précise Félix Tshisekedi. Ce 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption. Dans ce journal, vous suivrez les propos de Ernest Mparero, président de la Ligue congolaise contre la corruption, Likoko, sur cette pratique dans notre pays. Notre invité s'appelle Émile Abdoulou Demouzé. Il est l'administrateur en charge des questions politiques et administratives du territoire de Kailo. Il va parler des conditions de vie des habitants du village Lonyoma, à 6 km de Kailo centre, dans la province de Maniema. Bonsoir à tous. Ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux des états généraux du portefeuille de l'État. La quasi-totalité des entreprises publiques de la RDC sont actuellement en contre-performance et leur situation reste très préoccupante, selon Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du portefeuille. Plusieurs défis doivent être relevés afin de parvenir à une gestion irréprochable. Explication avec Emmanuel Elamejo Akabedi.
La crise profonde qui ruine actuellement les entreprises du portefeuille de l'État se manifeste par la mauvaise gestion, les rivalités internes, le manque de rigueur et bien d'autres encore. Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du portefeuille.
La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante. Dans l'ensemble, elles traversent une crise profonde qui se caractérise par des résultats négatifs récurrents, du vieillissement du personnel, l'endettement excessif, le faible niveau d'investissement stratégique, le faible taux de recouvrement des créances, la spoliation de leur patrimoine, la corruption et le détournement.
Pour favoriser la relance effective des entreprises publiques de la RDC, il faut bien définir les attributions des conseils d'administration et ceux des directeurs généraux et leurs adjoints.
Elle se caractérise par le non-respect des règles de gouvernance par certains mandataires publics et dans la plupart des cas, par une inefficacité des conseils d'administration qui, au lieu de fonctionner comme des organes stratégiques, veulent se verser dans la gestion quotidienne. Les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale.
Ces états généraux du portefeuille de l'État se tiennent sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et du développement social de la RDC ».
Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Propos de Félix Tshisekedi à l'ouverture de ces états généraux des entreprises du portefeuille, lesquels iront jusqu'au 14 décembre courant. Suivez le président Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
Le thème de ces assises reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Les entreprises publiques, qui devraient être des moteurs de croissance économique, continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs, tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates.
C'est la journée internationale de lutte contre la corruption ce lundi 9 décembre. En RDC, malgré le grand nombre des structures dédiées à la lutte contre la corruption, cette pratique ne cesse de gagner du terrain. Selon Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise contre la corruption, les responsables politiques ne s'engagent réellement dans cette lutte et entravent les actions des structures en charge de combattre ce fléau. Écoutez les propos d'Ernest Mpararo au micro de Jocelyne Moussa Oponde.
Au niveau national, il y a des structures comme l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'Inspection générale des finances qui fait la prévention dans les détournements des finances publiques, il y a le CNRF qui lutte contre le blanchiment de capitaux, il y a l'Observatoire de l'éthique professionnelle qui devrait aussi sensibiliser les agents de l'État pour qu'ils puissent avoir un comportement éthique pour préserver les biens de l'État. Malheureusement, nous constatons que il y a certains services qui font leur travail, mais comme c'est un maillot, à un certain niveau, il y a blocage de ces maillots-là, parce que les aspects politiques ne sont pas pris en compte. Les politiciens ne veulent pas changer de comportement. Or, les politiciens influent sur la gouvernance, que ce soit judiciaire, que ce soit sécuritaire, ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup d'avancées, étant donné que le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, la primature, ne s'engagent pas courageusement pour effectivement lutter contre la corruption.
Au Nord Kivu, des violents combats opposent depuis ce matin et pour le 8e jour consécutif les FRDC au M23 dans le sud du territoire de Lubero. Les affrontements se déroulent sur 4 fronts où l'armée continue de contenir l'offensive lancée il y a une semaine par les combattants du M23 appuyés par le Rwanda. Les détails avec Martial Papimukeba.
Les affrontements se concentrent à Matembe, un point d'ancrage stratégique partagé entre les FRDC et les rebelles. D'autres combats intenses sont signalés à Kasehe, Miobwe et Kibaku, des villages toujours sous occupation du M23. Depuis une semaine, les rebelles ont lancé à partir de ces zones une offensive visant à progresser vers des centres stratégiques comme Lubero Centre. Pour contrer cette avancée, les FRDC ont installé des centres de résistance et mènent des opérations de défense mobile. Depuis dimanche, l'armée a repris le contrôle de Luofu, un village stratégique ouvrant l'accès à plusieurs axes majeurs, notamment en raison de sa proximité avec Kasehe et Matembe. Alors que les combats s'intensifient dans les sites de Lubero, les présidents congolais et rwandais sont attendus le 15 décembre prochain à Luanda. Sur place, ils participeront à un sommet tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'Angola sous l'égide du président angolais João Lourenço. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Au Nord Kivu toujours, les personnes déplacées de troisième âge meurent en cascade dans les sites des déplacés autour de Goma. Dans le camp des déplacés de Don Bosco, par exemple, au moins un aîné meurt chaque semaine. Non seulement ils sont moins nombreux, mais aussi le peu qui sont là ne supporte plus les conditions difficiles en déplacement. Les responsables de ce site plaident pour le retour rapide de la paix afin de sauver la vie des populations déplacées autour de Goma en général et de ces personnes de troisième âge en particulier. Le point avec Rosalie Zawadi.
Dans les camps des déplacés de Don Bosco qui hébergent plus de 26 750 personnes, 3% sont des personnes de troisième âge. La raison, selon Justin Kamana, président des déplacés de ces sites, est que plusieurs vieillards n'ont pas pu fuir les combats dans leur village et ceux qui ont réussi à rejoindre les camps ne s'adaptaient pas aux conditions difficiles.
Hier, nous avons perdu un vieux et dans la semaine passée, on a perdu un autre. Donc, si nous comptons par mois, on peut perdre au moins 7 à 8 personnes de troisième âge. Ils ne sont pas capables de supporter les conditions difficiles dont nous vivons, notamment la carence des aliments, mais aussi nous vivons dans des bâches où les eaux de pluie font des intempéries, des eaux stagnantes dans les cabanes et nous perdons un grand nombre de vieillards dans ces conditions.
Les traditions funéraires, essentielles dans la culture africaine, sont difficilement respectées en raison du manque de moyens et de l'urgence de la situation. Face à cette tragédie, les responsables du camp appellent les autorités à accélérer les actions en faveur de la paix. Ils demandent aussi que soit renforcée l'aide humanitaire pour les déplacés, en particulier les plus vulnérables. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis notez que le ministère des Droits Humains, en partenariat avec le système des Nations Unies, annonce la cérémonie de remise du prix de la première édition du concours national du prix Julienne Lusenge pour les droits humains Ça sera demain, mardi 10 décembre, à Kinshasa. Ce prix vise à honorer les défenseurs de droits humains en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes, les femmes, les associations et les organisations de la société civile qui se distinguent par leur contribution exceptionnelle à la protection et à la promotion pacifique des droits de l'homme en RDC. Le prix Julien Lusenge honorera ceux et celles qui se seront illustrés par des engagements significatifs en faveur de la protection des droits humains et de la promotion droite au développement dans le secteur des industries extractives et la sauvegarde de l'environnement, des personnes vivant avec un handicap ou le VIH-Sida, ainsi que celles atteintes d'albinisme ou encore des peuples autochtones pygmées par des mesures concrètes dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'habitat, de la santé, de l'emploi et de l'accès à la justice. Lancement ce week-end au Congo central des travaux de construction d'une aire de stationnement des véhicules poids lourds à l'agglomération de Kitadila, dans le territoire de Songololo, près de 25 km de la ville de Matadi. L'objectif est de lutter contre les stationnements anarchiques des véhicules à l'entrée de la ville de Matadi. C'est pour tenter de résoudre l'épineux problème des embouteillages sur la route nationale numéro 1 et rendre la circulation fluide dans la ville portuaire de Matadi. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur de province, Grâce Nkwanga Bilolo, en présence de plusieurs autorités, dont le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que les membres du gouvernement provincial. Nana Plurich Mambou.
Ces projets, exécutés par l'entreprise chinoise Hongfang Sarl, s'étendraient sur une superficie de 7000 km² et offriraient une capacité d'accueil de plus de 1000 véhicules poids lourds. Ils visent à réduire les embouteillages sur la nationale numéro 1 en désengorgeant l'entrée de la ville de Matadi des véhicules qui stationnent anarchiquement en attendant l'heure indiquée pour leur entrée dans la ville. Sur ces terres de stationnement seront également aménagés des espaces de repos, des aires de jeu, des zones de restauration et divers services connexes en vue de mettre les usagers de la route dans les bonnes conditions. Le ministre provincial des ITPR l'a souligné dans son adresse. Jacques Mombo.
Cette infrastructure a pour objectif spécifique de répondre aux besoins d'une sécurité fiable et responsable au profit des usagers de la route, d'assurer une régulation des entrées dans la ville de Matadi, l'intégration harmonieuse de la population environnante, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant à proximité et le choix modal.
Pour les chefs de l'exécutif provincial du Congo central, ce projet ambitieux va aussi booster l'économie dans la zone et surtout créer de l'emploi pour la population du Congo central principalement. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Reprise du trafic ferroviaire sur l'axe Kalemie-Kindu et Lubumbashi. La première locomotive en provenance de Kabalo est arrivée à Kalemie il y a quelques jours. Le directeur des régions des Grands Lacs de la SNCC appelle les opérateurs économiques à amener leurs marchandises à la SNCC. Pour rappel, le trafic a été interrompu depuis 11 mois à cause de l'effondrement du pont Luizi à la limite entre les territoires de Kabalo et Nyunzu. Le point avec Paulin Munanga.
La première locomotive numéro 1810, tractant 17 wagons en provenance de Kabalo, a atteint Kalemie en passant par les ponts rail Luizi. Le directeur des régions des Grands Lacs de la SNCC annonce que le gouvernement a disponibilisé des moyens pour la réhabilitation de ces ponts. Sami Ilungawaumba souligne que cette reprise du trafic ferroviaire soulage la population pour les transports et les opérateurs économiques pour le transport de leurs marchandises. Il précise que certains opérateurs économiques avaient laissé leurs marchandises dans les entrepôts de la SNCC depuis l'interruption du trafic. Pour rappel, depuis janvier dernier, les ponts jetés sur la rivière Luizi s'est effondré. Conséquence, le trafic ferroviaire a été interrompu sur différents axes. C'est notamment à partir de Kabalo vers Kindu dans les Maniema, en passant par Kongolo et Samba. Et l'axe qui mène vers Lubumbashi dans le Haut-Katanga, en passant par Kabongo, Kamina, Luena et Likasi. D'après une source proche de la SNCC à Kalemie, la vétusté du pont a été à la base de cette situation. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Dans le Maniema, pas d'école secondaire ni d'université à Lonyoma, village situé à 6 km de Kailo centre. Selon l'administrateur du territoire de Kailo, faute d'une école secondaire, les enfants de ce village se lancent dans les activités minières après avoir terminé leur cycle primaire. La société civile et les activistes des droits de l'homme plaident pour l'implication urgente des autorités. Florence Kizalunga était sur place. Elle nous propose ce reportage.
En plus de manquer les écoles secondaires et universitaires, la population de l'Onyoma n'a pas accès à l'eau potable et aux soins de santé de qualité. Erad Kuminga Moïse, président des droits de l'homme, plaide.
Ici précisément à l'Onyoma, nous manquons de l'eau potable, nous manquons aussi l'école secondaire et université, nous manquons de cela. C'est ça les difficultés de notre village l'Onyoma. Pour faire l'école secondaire et université, il faut aller toujours à Kailo, donc nous avons des conditions difficiles. Nous n'avons qu'un poste de santé qui ne remplit pas les conditions. Les femmes aussi accouchent dans les mauvaises conditions. Les maladies traitées aussi dans les mauvaises conditions. Nous n'avons pas aussi des pharmacies. Il faut aller toujours à Kailo pour acheter les médicaments. Et cela demande beaucoup d'argent pour le transport, d'aller et retour. Ce que nous demandons, les conditions de route, les routes vraiment totalement impraticable pour nous. Nous avons besoin de l'intervention des autorités pour résoudre tous ces problèmes.
L'autorité locale qui confirme cette information, elle aussi réitère ses plaidoyers aux décideurs car cette population est exposée à tout vent de maladie. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, 6 mineurs mozambicains sont sortis du puits de Stilfontein ce week-end. Ils ont été aussitôt arrêtés par la police qui est déployée à l'entrée du puits. Le nombre exact des mineurs qui se trouvent toujours au fond est encore inconnu. 1420 mineurs sont déjà sortis des différents puits autour de Stilfontein depuis le début de l'opération lancée par la police sud-africaine. Parmi eux se trouvent plus de 900 Mozambicains et 400 Zimbabwéens. Une dizaine de corps ont également été récupérés. Notez que la police sud-africaine a lancé une vaste opération mi-octobre surnommée Vala Mgodi, fermer les trous, afin de lutter contre l'exploitation illégale des mines d'or désaffectées dans le pays.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est Émile Abdoulou Demouzé, administrateur en charge des questions politiques et administratives du territoire de Kailo. Il nous parle des conditions de vie difficiles des habitants du village L'Onyoma, qui se trouve à 6 km de Kailo centre. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Émile Abdoul, bonjour.
Bonjour madame.
Nous sommes au village L'Onyoma. Comment vivent les habitants de cette partie de la province du Maniema?
La population de cette partie de notre entité ici vit dans une condition très déplorable, madame. Du fait que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des écoles. Donc, en bref, cette population ici vit par la grâce de Dieu.
Vous vivez par la grâce de Dieu. Quand vous parlez des écoles, c'est que les enfants d'ici n'étudient pas? Il n'y a aucune école?
Il n'y a que l'unique école, encore école primaire. Et puis, avec la démographie de cette population, avec l'unique école, qu'est-ce que ça va faire? Nous n'avons pas d'école secondaire, pas moins même d'université. Là, on ne parlait même pas.
Et quand les enfants d'ici terminent leur cycle primaire, comment est-ce qu'ils font pour entamer les cycles secondaires?
Non, madame, nous avons des sérieux problèmes. Souvent, vous allez observer, l'enfant pourra commencer son école primaire convenablement, mais aussitôt décrocher son petit certificat là, il est obligé d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école secondaire. Et s'il faut quitter ici, aller vers Kailo centre, ce n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants, quand ils terminent c'est un cycle primaire là, ils jugent bon de se plonger dans des carrés miniers pour faire les activités de la mine.
Dans votre village ici, le projet de 145 territoires n'était pas arrivé?
Effectivement, le projet était arrivé, mais madame, nous avons un sérieux problème. Même les matériaux pour nous arriver, ça a cassé tête. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route. Pour que tu quittes Kindu, tu arrives à ce niveau ici, et en tout cas, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route. La route ici, d'ailleurs, c'est une route nationale, RN31, mais comme il y a eu rupture, parce que les ponts qui nous reliaient avec les autres territoires, ça a été cassé depuis bien avant, bon, ce qui ne favorise pas l'interconnexion de nos entités.
C'est-à-dire comme le gouverneur de province venait de lancer les travaux de réhabilitation de ces tronçons ici, ça sera votre salier alors?
Vraiment, madame, en tout cas, nous sommes en train de remercier cette initiative combien louable de l'autorité provinciale. Mais ce que nous demandons, c'est l'aboutissement de ces travaux. Souvent, nous avons des mauvais souvenirs. Parfois, et quand les travaux commencent comme ça, ça prend assez de temps jusqu'à tel point que la population voit que non, et les autorités viennent que nous flatter ici pendant que ce n'est pas comme ça. Nous voulons assez que ces travaux aboutissent et que l'interdépendance de nos entités puisse s'observer et que la population puisse quand même se ressentir à l'aise.
Comme vous évoquez les problèmes des routes, maintenant avec vos produits des chambres, vos produits agricoles, comment est-ce que vous faites pour les acheminer vers les centres de consommation? Est-ce que ici localement vous avez un marché?
Nous n'avons pas un marché, madame. Ce que nous produisons, c'est à notre consommation propre. Voilà pourquoi vous allez observer, nous cultivons et que si nous avons des productions, ça va terminer que pour la consommation. Parce qu'il n'y a pas de route pour évacuer. Vous savez, pour qu'il y ait le développement de nos entités, la première des choses, c'est l'aménagement de la route. Si nous n'avons pas de route, en tout cas, même si nous produisons des tonnes et des tonnes, comment est-ce que nous allons les évacuer? Le grand problème, c'est la route. Comme l'autorité vient de faire ça, nous sommes en train de remercier le bon Dieu.
Et côté sanitaire, est-ce que le village Lunyuma a un hôpital qui prend la population en charge correctement?
Pas tout à fait, madame. Nous avons un petit poste de santé que nous avons, qui n'a même pas des agents. Bon, nous vivons en carver, madame. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons ici. Nous avons un poste de santé là, qui n'est pas équipé, qui manque même les médicaments. C'est ainsi que nous appelons les autorités à poster leur regard ici, chez nous. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer un territoire qui n'a même pas 30 km de route en bon état. Donc, nous vivons que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous invitons les autorités de nous venir en aide pour que nous puissions quand même espérer et avoir observé le développement afin que l'interconnexion puisse s'observer dans notre entité.
Monsieur Émile Abdoul, merci.
Merci beaucoup, madame.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.